prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, si le grain de blé ne meurt.
Et au verset 23, c'est une courte lecture qui sera complétée par deux autres ultérieurement. Alors, je répète. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alors vous l'avez remarqué certainement immédiatement dans la lecture, Jésus nous dit que, eh bien, si le grain de blé meurt, il portera des fruits. Ça, c'est complètement à l'opposé de notre conception naturelle des choses. Parce que s'il meurt, c'est la fin. Il n'y a plus rien, hein, plus rien qui peut finalement aboutir. Et pourtant, Jésus nous laisse un formidable message que nous allons développer ensemble. Parce que, premièrement, je voudrais dire que les propos que Jésus tient devant ses disciples, et qui sont demeurés pour nous un formidable enseignement d'espérance, de foi, c'est que ces paroles de Jésus font suite, eh bien, tout simplement, à la résurrection de Lazare, où le récit nous est rapporté au chapitre 11 de ce même évangile. Il est question de Lazare que Jésus ressuscite, et ensuite, Jésus va donner un principe. Ce n'est pas un principe de mort, mais c'est un principe de vie, qu'il faut mourir pour renaître. Et il prendra, nous allons le voir par le détail, eh bien un phénomène que nous connaissons, c'est-à-dire au niveau de ce qui se produit chez les végétaux à graines, et qui fait qu'il y a là quelque chose qui vraiment corrobore avec le message spirituel que nous laisse la Bible. Ainsi, nous voyons que Jésus insiste sur la nécessité, et j'appuie sur les mots, de sa mort pour que le monde vive. Normalement, c'est un acquis, cela. On devrait tous le savoir, que parce que Jésus est mort, nous vivons. Nous vivons si nous croyons. Parce que le seul lien qui véritablement donne de la force, de la puissance et d'une réelle valeur aux paroles de Christ, c'est tout simplement de croire ce qu'il nous a dit. Et tout l'évangile, eh bien, nous rappelle que Jésus, en donnant sa vie, ne l'a pas fait pour lui-même, mais il l'a fait pour que nous puissions vivre de mort que nous étions. Alors peut-être ça peut donner quelques réactions, parce que on dira, mais moi je ne suis pas mort, je suis vivant. Eh bien, peut-être que c'est certainement une réalité sur le plan physique, mais quant au plan spirituel et moral, c'est peut-être autre chose. Alors Jésus, donc, s'inspire par une image, c'est une image, hein, s'inspire tout simplement de la nature. Il prend l'exemple d'un grain de blé pour produire son fruit nourricier, parce que nous savons que le blé devient du pain, et le pain nous donne la vie, enfin il entretient notre vie naturelle. Eh bien d'abord, il doit être abandonné, ce grain, il doit être jeté en terre, et il y meurt. Parce que s'il ne meurt pas, il n'y aura pas de moisson. Le blé n'arrivera pas en herbe, il ne produira pas des épis, il n'y aura rien du tout. C'est-à-dire que ce sera une opération stérile, nulle. Alors il y meurt. Et pour mourir, il va se dissoudre dans la terre. Il y a des propriétés tout à fait particulières qui favorisent, eh bien, la germination du blé ou d'autres céréales, d'autres graines. C'est le facteur humidité, la terre également, et puis la chaleur. Alors, en fonction de cela, quand tout est réuni, normalement, depuis les temps immémoriaux, depuis qu'il nous est dit dans le chapitre 1er du livre de la Genèse que Dieu a créé les végétaux selon leurs espèces et les espèces à graines, eh bien, ça fonctionne encore. on en est témoin, même si nous ne sommes plus que des consommateurs, nous ne sommes plus à la production, hein. Enfin, peut-être pour la plupart d'entre nous, mais c'est le principe qui est mis devant nous, et c'est important, je voudrais le souligner avant d'arriver à un autre texte. Donc, ce grain, il meurt, il se dissout. Et c'est le principe de la germination, tout simplement. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans la science de la botanique, c'est que finalement, cette disparition en terre de ce grain, ce qui semble finalement abandonné, et on renonce, hein, quand le cultivateur déploie sa main pour lâcher ce grain, il va l'abandonner. Il va l'abandonner tout simplement aux intempéries, à la nature. Alors ça se fait dans une saison particulière, comme la nôtre, à l'automne, et on se dit, mais comment va-t-il passer l'hiver ? Eh bien, il faut que l'hiver passe. Puis ensuite, il va y avoir tout un phénomène climatique qui va faire en sorte qu'au mois de juillet, dans nos régions en tous les cas, eh bien, on va voir ces champs qui vont être parés d'or. C'est la couleur finalement de l'épi, hein, et puis de ces millions et des millions d'épis qui sont devant nous. Et ça, c'est une promesse de vie. Alors, le germe vivant de cette graine produira une vie nouvelle qu'à une condition, c'est de mourir. Et je tiens quand même à l'affirmer parce que ça va être le fait même de notre le fer de lance la pensée principale de notre message ce soir est de mourir. Et quand il meurt, eh bien à ce moment-là, il peut renaître. Il y a le cas contraire. Le grain, il peut être conservé tout simplement dans un endroit, hein, que l'on appelle un grenier, ou je ne sais pas moi, un cellier ou autre chose. Et on le met dans un endroit qui va ne pas provoquer sa mort. Il va rester à l'état, tout simplement. Il va y avoir des graines, des monceaux de graines, hein, tout cela entreposé sur le plancher peut-être, hein, du grenier. Et il demeure à l'état de non-vie. Il est tout simplement, on pourrait dire, stratifié, il ne bouge pas. Et il ne se reproduira pas, il ne portera pas de fruits, et il sera sans suite. C'est une image que j'avance pour montrer qu'il y a une nécessité absolue dans l'Évangile. Et Jésus nous en donne l'exemple par le propre don de sa vie. Et c'est aussi vrai pour nous, ça vaut pour nous. C'est que si nous voulons voir la suite de ce don Dieu a prévu pour nous, eh bien il faut passer par cette mort. Il faut passer par, finalement, eh bien, quelque part, une chose qui doit se produire spirituellement en nous et qui va nous donner de vivre, qui va nous donner de revivre, de renaître exactement. Cette grande vérité qui est placée devant nos yeux révèle le sens et le but de ce pourquoi Jésus est mort, parce que par celle-ci, par sa propre mort, le fruit produit a été des millions et des millions d'hommes sauvés. Et des hommes qui ont été sauvés parce qu'ils ont cru à ce principe. Je vous le rappelle, un cultivateur, lorsqu'il va déposer sa graine dans son champ, mais il croit ce qu'il fait, autrement il la garderait la graine. Il ne la déposerait pas, il ne la jetterait pas en terre, il ne l'abandonnerait pas finalement, et eh bien là tout simplement à cette étendue dans laquelle elle va se perdre quelque part. Eh bien c'est exactement la même chose. Les croyants, ce caractérise le croyant, le véritable enfant de Dieu ou le disciple de Jésus-Christ, l'homme de foi, croit que ce principe n'est pas seulement un principe pour les végétaux, mais c'est un principe spirituel et moral pour, en ce qui nous concerne. Et nous voyons que, parce que justement, et à travers les semailles qui durent depuis 20 siècles, et les semailles, je pense à l'évangélisation, ou à la lecture de la Bible, qui a été répandue dans le monde entier, des millions et des millions d'hommes ont cru que c'était possible. Et ce principe, à travers la foi, eh bien, ils l'ont saisi, et c'est ce qui fait qu'il y a ce que Jésus enseignera, la nouvelle naissance, tout simplement. Et cette vérité absolue nous est appliquée pour chacun d'entre nous. Je voudrais simplement vous rappeler, avant d'arriver un peu plus loin, ce que nous dit tout simplement l'évangéliste Matthieu, enfin c'est Jésus, mais rapporté par Matthieu, quand il parlera justement de ce que peut être un véritable disciple. Alors il dit ceci, « Alors Jésus dit à ses disciples, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et il ajoute, comme nous l'avons lu précédemment, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ? C'est ça la question. La question, elle est là. Et vous avez remarqué avec moi, il est question de renoncer. Le mot mort n'est pas prononcé, mais ça veut dire la même chose. C'est une mort sous une autre forme. C'est renoncer à nous-mêmes. C'est renoncer à nos idées, à nos conceptions, à tout ce que nous sommes, finalement, en dehors de la pensée de Dieu. C'est une forme de mort. Et pour découvrir qu'il y a une nouvelle vie, si nous passons par cette expérience. Et puis Jésus le dira, il marquera, mais il portera sa croix. Et porter sa croix, c'est s'identifier avec Jésus. Jésus s'est identifié avec la mort pour nous, pas pour lui, mais pour nous. Et nous-mêmes, en portant notre croix, tout ce qu'il peut y avoir, finalement, eh bien, de principe, parce que la croix, c'est quoi ? C'est l'image de la mort. On l'a vu, on le sait. Eh bien, c'est véritablement ce que Jésus nous a dit. Alors, il faut choisir. Il faut choisir à un moment ou un autre de notre vie, soit je garde la semence et le grain dans mon grenier et il ne bougera pas, il ne donnera rien d'autre, il n'y aura que stérilité et il n'y aura pas de moisson, il n'y aura pas finalement eh bien, de fruits. Ou alors à ce moment-là, je vais prendre l'option en engageant toute ma confiance en Dieu et ma foi en Dieu dans sa parole, dans ses promesses. Et là, il va y avoir une vie nouvelle qui va se développer en moi. Elle n'est pas différente de celle des autres hommes, mais elle est invisible, et pourtant elle va porter du fruit. Je serai un homme nouveau, ou une femme nouvelle, avec des fruits, avec le caractère de Christ, à la ressemblance de Jésus. Donc il faut choisir. Soit on aime, ou on hait. Nous l'avons lu. Soit nous perdons, avec cette espérance que nous allons retrouver, ou alors nous conservons, et à ce moment-là, eh bien, nous allons perdre, en d'autres termes. Ça veut dire renoncer à soi-même, ça veut dire notre vie physique, notre vie psychologique, notre vie naturelle et notre vie charnelle. Alors moi j'aimerais maintenant, pour illustrer un petit peu le principe, parce que c'est toujours, pas toujours très facile, très clair, d'énoncer des principes, mais pourtant c'est quand même assez, c'est nécessaire que nous puissions le dire. Je voudrais vous parler maintenant d'un exemple de vie avortée, une vie avortée, par le refus, tout simplement, de changer. C'est ça, renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est vouloir changer. C'est vouloir Dieu, laisser Dieu nous changer, nous transformer. Dans, peut-être, à commencer par certains aspects de notre vie, au fond de notre cœur, le mal, le péché, toutes sortes de tendances qui sont mauvaises, à travers peut-être des expressions, la vulgarité, toutes sortes de choses. Hein. Peut-être pour certains, ça sera... tellement de manifestations que, où l'on voit que véritablement celui-ci ou celle-là, eh bien, ce n'est certainement pas un chrétien. À travers demander le secours de Dieu lorsque nous sommes aux prises avec des passions et des addictions, là c'est aussi vouloir changer. Alors on va voir cet exemple de vie avortée, c'est bien dommage, parce que nous allons découvrir que dans l'histoire de cet homme, tout le monde s'en apercevait sauf lui. Et c'est ça justement le drame, tout le monde s'en apercevait. Il s'agit, et vous allez peut-être, vous l'avez vous déjà deviné, il s'agit du fils aîné de la parabole que Jésus nous laisse et qui fait suite à la parabole du fils prodigue. Alors on va lire le texte et vous allez voir que c'est un drame pour ce garçon parce que quelque part ça aurait pu être autrement, mais il s'obstine finalement à garder ce qu'il a, à garder ce qu'il est et de ne pas vouloir laisser Dieu changer sa vie. On le lit dans Luc, chapitre 15, et verset 25. Et nous avons ce texte. Alors, Luc 15, verset 25. « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le faux gras. » Parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Notez bien cette parole du père qui dit tout simplement « Ton frère était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il a été retrouvé. » Ce chapitre comporte deux histoires très, très frappantes, très saisissantes. Un père a deux fils. Le premier, le plus jeune, se dit à un moment donné, « Moi, je vais faire ma vie, je n'ai plus besoin de la maison paternelle, je demande ma part d'héritage et je vais tout simplement mener brillante et joyeuse vie, loin des yeux, loin du cœur, et voilà qu'il s'en va, et il se retrouve dans une situation épouvantable de misère, parce qu'il n'a plus d'argent, il perd ses amis, il vit une vie de débauche, mais à un moment donné, il se reprend en disant, « Mais j'ai le souvenir qu'auparavant, avant de prendre cette funeste décision de quitter la maison du père, j'étais heureux. J'avais de quoi manger, j'avais l'affection de ma famille, j'avais du travail, j'avais tout ceci et cela. Et la misère est tellement intense parce qu'il se trouve dans un contexte de famille, de famine, et à ce moment-là, eh bien, il va réfléchir et il se dit, mais je vais retourner à la maison. Et comment faire pour retourner? Et il a cette pensée, il se dit, moi, pour retourner à la maison, il faut que je demande pardon. Alors il va faire ça, il va prendre la résolution, il va dire, je vais retourner, je suis trop malheureux ici, je ne peux pas rester ici, je vais mourir. Si je reste dans l'état, je vais mourir. Alors, il va réfléchir à la chose, et puis, la disette le poussant un petit peu plus fort, il va prendre le chemin du retour. Et quand il va arriver, là, à ce moment-là, il va dire, sous une forme de repentance et de pardon, il va dire à son père, eh bien, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, maintenant traite-moi comme le dernier des derniers, mais je te demande pardon. Et voilà qu'à ce moment-là, le père va comprendre ce qui se passe, et il va le réhabiliter, il va lui pardonner, il va lui accorder son pardon, il va le réhabiliter. Et ce jour où il est arrivé, ils vont faire la fête, une grande fête, parce que le père est heureux de retrouver son fils. Il l'a retrouvé, c'est vrai, probablement dans un triste état, mais il va guérir. Il va guérir parce que la première guérison, c'est celle du cœur. Il a commencé par demander la guérison de son cœur en demandant pardon. Parce que ça commence toujours par là. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont malades physiquement, des maladies psychosomatiques, mais quelquefois, ça commence par le nettoyage à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand il y a cette guérison, eh bien, le reste va mieux. Alors, c'est la fête. On tue le veau gras. Tout le monde se réjouit. Et puis, comme la fête est prévue pour la soirée, alors, on a eu le temps de faire les préparatifs, et voilà que le second fils de la maison, qui lui n'est jamais sorti, qui n'a jamais fait de bêtises apparemment, qui est certainement un bon garçon, bien rangé, toujours obéissant à son père, mais vous remarquerez, c'est une obéissance sans amour. Alors une obéissance sans amour, ça ne vaut rien. Vous comprenez? Ça ne vaut rien. C'est de la stérilité. Ça n'a aucun fruit. Ça ne produit pas. Alors, on va reprendre le texte, il nous est dit, « Or, le fils aîné, ce garçon bien brave et bien gentil, alors il était dans les champs parce qu'il a travaillé toute la journée. Il travaillait pour son père, mais il le faisait sans joie, sans ferveur. Je travaille parce qu'il faut travailler. C'est triste, la vie. » Alors, il est revenu, et il s'est approché de la maison, et là, il y a eu une surprise, parce que c'était quand même assez rare que des choses pareilles se fassent. Et il a entendu de la musique et des danses, parce que c'est comme ça en Orient. Vous avez vu la spontanéité de la fête. Le fils prodigue revient, on fait la fête le soir même. On tue le veau gras. Ce qui était quand même, là, le symbole eh bien, d'un festin. Ce n'était pas un plat arrangé. Non, mais c'était quelque chose qui recouvrait certainement eh bien, beaucoup de festivités. Alors il entend la musique et les danses. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même pas pour moi, c'est pas mon anniversaire. Peut-être qu'il pensait à lui. Il se dit, c'est pas pour moi qu'on fait ça. Alors, comme il ne savait pas encore que penser de cet événement qui était dans la maison, alors il a appelé, il a saisi un de ses serviteurs qui passait par là, il lui a demandé ce que c'était. Et le serviteur lui a dit tout simplement, mais tu sais, je voudrais te dire ton frère. Tu te souviens que tu avais un frère? Tu te souviens, tu, celui qui... Voilà. Alors ton frère, il est de retour. Ouais. Ça faisait probablement des mois, ça faisait peut-être des années que ce frère-là, eh bien, n'avait pas vu finalement toute l'atmosphère familiale, mais il était de retour, comme quelqu'un qui revient de loin. Mais lui, il revenait de loin doublement, parce qu'il avait été certainement dans un pays éloigné, comme le texte nous le dit, mais il revenait de loin sur le plan moral, sur le plan spirituel, parce qu'il était perdu. Alors, il va lui expliquer, le serviteur, et il va lui dire tout simplement, ensuite, il lui dira, mais ton père a tué le veau gras, il fait la fête pour ton frère, parce que tu sais, eh bien, il l'a retrouvé en bonne santé. Ouais, la santé était revenue, parce qu'il avait le courage, tout simplement, de dire les fautes qu'il avait faites, toutes les erreurs qu'il avait commises. Et ça, ça l'avait soulagé. La santé, elle passait déjà par son âme, elle passait déjà par sa vie intérieure. Et comme ton père a vu cela, eh bien, il a préparé une fête parce qu'il est revenu à la maison. Ouais, personne n'a été le chercher. Mais sa conscience, oui, devant la misère, devant le mal qu'il avait commis, devant cette conviction intérieure que ce qu'il avait fait jusqu'alors, eh bien, était quelque chose qui n'était pas bien, et qu'il avait besoin de réparer, il voulait réparer, parce que très longtemps, il n'avait certainement pas pensé qu'il avait causé de la peine à son père, que son père, qui l'avait attendu des jours, des nuits peut-être, n'avait pas mesuré finalement toute la souffrance de son père. Et à un moment donné, lui-même dans la misère, il s'est dit, non, c'est pas possible. C'est mon père, et je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que je retourne, et c'est comme ça qu'il l'a retrouvé, en bonne santé. Et voyez-vous, ce qui se passe, c'est que quand il a entendu dire les choses, que son frère était revenu, que son père l'avait accueilli, alors il s'est mis en colère. Ouais. Voilà, la colère. Je vous rappelle au passage que Jésus nous dit « renoncez à vous-même ». Et renoncer à soi-même, c'est renoncer au mal, comme le premier qui a renoncé à toutes ses fantaisies, à toutes ses aventures douteuses, à toutes ses aventures avec les femmes, là, ses prostituées, puisque la question est là. Il a renoncé à cette vie qui... Il avait été au bout de cette vie-là et s'est aperçu que c'était rien du tout. Que ça l'avait rendu malheureux, que le résultat, le fruit, était un fruit amer, un fruit de solitude, un fruit d'abandon, un fruit de mort. Alors, lui, il était revenu. Mais le frère, lui, le deuxième, enfin, le frère aîné, quand il a su que les choses s'étaient passées de cette manière, lui, ça fait exactement l'effet contraire. Il s'est mis en colère. Il s'est dit, moi, la seule chose que je peux faire, c'est véritablement manifester mon indignation. Comment peut-on recevoir ce garçon avec toutes les fautes qu'il a faites, avec toutes les bêtises ou le mal qu'il a pu faire, qu'il nous a fait, comment pouvoir l'accueillir? Oui, mais il n'était pas là quand il a demandé pardon, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, il s'est mis en colère et il n'a pas voulu entrer. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle tout simplement de l'entêtement. Il est buté. Et il ne veut pas pardonner. Il refuse de comprendre. Je reviens sur ce que Jésus nous dit. Si vous voulez être mon disciple, renoncez à vous-même, à nos entêtements, à nos colères, à nos jugements arbitraires, à toutes sortes de manifestations. Ça, c'est l'homme charnel et naturel, vous comprenez? Ça, c'est l'homme tel qu'il est. Alors, comme il ne veut pas rentrer dans la maison, alors que la fête est déjà commencée, c'est son père qui sort. Et il le pria d'entrer. Oui. On voit l'image du père qui attend le fils prodigue et qui va le recevoir dans ses bras et qui va lui donner la bénédiction du pardon. Mais là, c'est le fils qui ne veut pas rentrer. L'un rentre et reçoit la bénédiction du père, et l'autre refuse de rentrer pour avoir aussi part à la bénédiction. Alors il sort, et il le prie, il le supplie, il lui dit « Mais rentre, c'est ton frère, je suis ton père !» Alors il a répondu à son père cette parole. C'est une parole pleine d'amertume. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il avait servi dans la maison paternelle, mais sans amour, une obéissance sans amour, avec toutes sortes d'arrière-plan, d'aigreur dans son cœur. Alors il lui dira, mais il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Ça transparaît, ou ça laisse tout simplement suinter, et bien là, un mauvais état d'esprit. Il lui dira, tant d'années que je te sers, c'était certainement vrai, et je n'ai jamais transgressé tes ordres. C'est peut-être vrai aussi, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas transgressé. Ce n'est pas parce que, finalement, eh bien, on a toujours été dans la maison et qu'on a toujours servi. Si on fait les choses, et si au fond de nous-mêmes, eh bien, il y a un cœur mauvais, un cœur de mercenaire, un cœur qui est là pour faire des reproches ou juger, condamner les autres, eh bien, je peux vous dire qu'on peut servir, on peut être en alignement pour soi-même, d'après ce que l'on pense, avec tous les commandements d'ici ou d'ailleurs. Mais c'est l'état intérieur, c'est la mentalité, c'est l'état d'esprit qui est mauvais. Alors, il va reprocher ça à son père. « Tu ne m'as pas donné un chevreau. » Et vous savez, quand il parle de chevreau, c'est quelque chose qui est méprisant vis-à-vis de son père. Parce que pour le premier qui est revenu, le fils prodigue, le père a offert un veau gras, ce qui était quand même d'un prix beaucoup plus important et considérable, et toi, tu ne m'as même pas donné un petit chevreau. Ça voulait dire, mais tu as un mauvais père. Et vous avez remarqué, ce garçon, il est toujours resté dans la maison. Il n'a pas fait de bêtises flagrantes comme le premier. Et c'est son état d'esprit. Je le rappelle encore. Jésus nous dit, si vous voulez être mes disciples, renoncez à vous-même et suivez-moi et portez votre croix. C'est ça, mourir à soi-même. Vous comprenez? C'est ça. Ça, ce deuxième, il représente un peu le blé, le grain, qui est mis dans un grenier, à même le sol, et qui attend qu'il n'est pas utilisable, et qui n'est pas utilisé non plus, et qui ne pourra pas être utilisé, parce qu'il ne porte pas de fruits. Le premier, le fils prodigue, quand il revient, il porte des fruits, il se repent, et il va changer. Ça ne va plus être le même homme, puisque son père lui dit, mettez-lui un anneau au doigt, c'est une alliance. Mettez-lui des souliers aux pieds, et donnez-lui maintenant la plus belle robe. C'est l'image d'un changement, qui se révèle peut-être extérieurement, mais qui est quand même la preuve d'une transformation intérieure. Alors, tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. On pourrait dire, mais le pauvre garçon, il en est là encore. Il n'a rien compris. Et quand ton fils, parce qu'il continue à véritablement régler son compte, et quand ton fils qui est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Imaginez-vous, hein, il ne fait pas de quartier. Quand il s'adresse à son père, il dit, ton fils, c'est aussi son frère. Et ça, il l'avait oublié. Celui qui a mangé ton bien. Mais si le père avait, et vous pourrez relire tout le chapitre 15, vous verrez que si son père a bien voulu daigner lui remettre sa part d'héritage, mais c'était un consensus, c'était un accord. Et aujourd'hui, qu'on vienne lui reprocher que le fils qui avait reçu cet héritage et qu'il l'avait dilapidé, et c'était son problème à lui, c'était pas le problème du frère aîné, il n'avait pas à juger de l'utilisation et de la manière finalement où cet argent avait été... Puisque de toute manière, ça ne changeait rien à son héritage au frère aîné. L'un avait eu sa part et lui, il avait la sienne. Vous savez, on est très, très prompt à juger les autres. Qu'on aimerait qu'ils fassent et qu'ils soient comme nous on fait et comme nous on est. Et quand ça sort un petit peu de nos vues, je peux vous dire, on peut avoir la mentalité du fils aîné. Et de commencer à condamner et commencer à juger... en disant, mais moi, c'est inadmissible, il devrait être comme ça, il devrait faire ceci, il devrait faire ça, c'est exactement ce qui se passe. Et il le fait avec, je pourrais dire, des paroles venimeuses, des paroles incendiaires, des paroles assassines, quand ton fils, celui qui a mangé ton bien, c'était plus le bien du père, c'était le bien de celui qui l'avait dilapidé, c'est tout, parce qu'on lui avait donné. Et en plus avec des prostituées, ce qui est quand même une injure, ce qui était peut-être vrai, mais c'était quand même une injure. Alors c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et vous savez, quand Jésus nous donne cette parabole, Jésus pense particulièrement à deux catégories d'hommes de son époque. C'était les pharisiens qui, du haut de leur position sociale ou religieuse, eh bien, étaient là les maîtres à penser et tenaient en quelque sorte... finalement toute chose entre les mains pour diriger la vie des autres. Et puis Jésus pense aussi à l'image du fils prodigue, il pense aux prostituées, il pense aux publicains, à tous ceux qui avaient une vie dissolue mais qui à un moment donné eh bien, vont mettre leur vie en règle pour véritablement eh bien, suivre Jésus. Il y a un qui accepte, qui revient dans la maison, c'est le publicain, c'est tous ces gens de mauvaise vie. Et puis il y a un qui se dit, moi, je n'ai pas besoin de tout ça, moi je suis mieux que tout le monde, c'est de l'autosuffisance. Ça, c'est quelque chose de terrible. Alors, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mais le Père, comme c'est un bon Père, et qui était à l'image de Dieu, parce que c'est Dieu que nous voyons apparaître naturellement dans l'image, il dira, mais mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Et moi, je voudrais quand même ajouter ceci, c'est que faisons attention de ne pas juger prématurément. De ne pas juger, Jésus nous dit, vous pouvez juger, mais juger selon la vérité, pas selon les apparences. Et je crois que nous n'avons pas à être aussi jaloux des autres. C'est ce qui se passe. Le frère aîné est jaloux du précédent. Tout simplement, la jalousie, on l'a dit et on le répète, c'est un véritable poison, c'est un fléau, la jalousie. Et le père lui dit, mais écoute, tu es dans ma maison. Comment serais-tu jaloux de ton frère? Parce que tout ce que j'aime, c'est à toi. C'était tout simplement à toi de te servir. Et je voudrais le dire pour les chrétiens que nous sommes les uns et les autres. Ne soyons pas plutôt. Eh bien, dans un état d'esprit qui nous amène en disant, Dieu bénit l'un, il bénit l'autre, mais moi, il ne me bénit jamais. Parce que la part, elle est pour tout le monde, elle est identique pour tout le monde. Et vous savez, je crois qu'il faut aussi renoncer à notre jalousie, à nos envies, à nos critiques, à notre amertume au fond de notre cœur. Ça, c'est de l'ivraie, c'est pas du bon grain. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que quelque part, eh bien, si nous disons que nous sommes chrétiens, si nous confessons le nom de Jésus-Christ et que nous connaissons sa parole, mais ce qui est pour l'un, ça vaut aussi pour l'autre, et je n'ai pas à être jaloux de ce que l'autre a et que moi je n'ai pas encore. Dieu pourrait nous dire, comme il le dit là dans cette parabole, « Mais tu es toujours avec moi. Alors, tout ce que j'ai, c'est à toi finalement de tendre la main de la foi, c'est à toi d'avoir un autre état d'esprit, de demander à Dieu qu'il te change par le Saint-Esprit, alors à ce moment-là, et tu seras aussi riche que ton frère, tu auras la même bénédiction parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. » Vous savez, c'est une parole très incisive, hein, ce que nous sommes en train de dire, mais c'est pourtant quelque chose de nécessaire. Tout à l'heure, nous avons fondé notre réflexion sur « renoncer à vous-même ». Eh bien, ça fait partie des choses sur lesquelles nous devons mourir. Voilà, le mal, le péché. Et le péché, ce n'est pas toujours celui qui est grossier, visible, vulgaire, comme le premier qui va voir des prostituées. Là, ça, c'est gros comme la figure, naturellement, hein, comme le nez au milieu de la figure. Mais il y a un mal qui est beaucoup plus subtil. C'est la langue, c'est les jugements, c'est la jalousie, c'est l'envie. Ça s'appelle renoncer aussi à soi-même. Seigneur, je prends conscience que ça m'arrive quelquefois d'être jaloux. Seigneur, pardonne-moi cette jalousie et délivre-moi. Ça m'arrive que quelquefois, pour me tirer de mauvaises situations, je fais des écarts avec la vérité. Seigneur, je mens, délivre-moi du mensonge. Ça s'appelle mourir à soi-même. Seigneur, tu sais, quelquefois je regarde ce qu'il y a là et j'aurais bien envie de le prendre. Puis ça m'arrive de le prendre. Seigneur, délivre-moi un peu du chapardage, et puis du vol, puis de toutes ces choses. Ça s'appelle mourir à soi-même. Ce n'est pas une mise à mort à la guillotine ou en par pendaison. Hein. C'est pas ça ce qu'il est question. C'est pas de mourir à l'extérieur de nous-mêmes, c'est de mourir à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir revivre. Parce qu'autrement, nous sommes comme le grain de blé. Il est dans le grenier. Il est là, inerte, et il ne portera jamais de fruits. Il ne pourra jamais ressusciter. Il faut qu'il se perde, ce grain de blé en terre. Comme nous, nous avons besoin de nous perdre dans l'amour de Dieu, et dans sa grâce et dans son pardon. Alors à ce moment-là, il y a des choses qui se passent. Et c'est Dieu qui va nous reprendre. Ouais, c'est pas facile de mourir. Hein. Ah. Mais je ne sais pas, la mort la plus difficile, il y a une mort que nous n'allons pas choisir, c'est celle de tous les hommes. Celle qui va nous emmener, finalement, eh bien, à quitter notre corps. Là, on n'a pas le choix. On ne peut pas dire, Seigneur, on peut demander des sourcils. Ça, c'est vrai. Mais autrement, on y va. Mais par contre, il y a une mort volontaire. Et celle-là, nous ne courons pas après. C'est dans une mauvaise personnalité. C'est une mauvaise mentalité. C'est une façon d'être, une façon de penser, une façon de parler, une façon de vivre. Et ça s'appelle encore renoncer à soi-même. Mon enfant, mais tout ce que j'ai, et c'est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, dira le père, à celui qui n'a vraiment pas envie de rire, et qui rit jaune, parce que finalement il ne supporte pas la grâce que son père a fait à son frère. Et quand Dieu nous fait grâce, quand Dieu fait grâce à quelqu'un, mais réjouissons-nous. Il y en a qui rient jaune. Ouais, c'est toujours lui qui est béni, pas moi. C'est toujours lui qui a ceci, cela. Ben, le Seigneur n'a pas de chouchou, hein, je tiens quand même à vous le dire. Non, non. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il y a encore la suite, mais bon, en tous les cas, on est sur ce modèle. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Et ça, c'est quelque chose de formidable et de merveilleux. Eh oui, formidable. Parce qu'il était perdu, et tout simplement, il a été retrouvé. Alors, je voudrais simplement vous dire en conclusion que notre garçon, frère aîné, avec l'état d'esprit qui est le sien, visiblement ne veut pas changer. Il ne veut pas changer parce qu'il n'a pas voulu rentrer dans la maison. Il a refusé. Ce sont des apparences de vie religieuses. Il avait probablement une vie morale. J'ai pas tué, j'ai pas volé. Je suis un brave homme. Je fais mon travail. Je t'ai toujours servi, Seigneur. Moi, je suis jamais allé voir des prostituées. Et puis ceci et cela. Vous comprenez? C'est une mentalité. C'est la mentalité des pharisiens. On a les mains propres. On a les mains propres avec un cœur sale. Et ce que Dieu voit, c'est pas les mains, c'est le cœur. Et c'est ce qu'il enverra un jour aux pharisiens qui le titillaient. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il lui aurait dit, écoutez, vous êtes une bande d'hypocrites, vous, pharisiens, religieux, collés montés, toujours au temple, toujours à la synagogue, etc., etc., etc. Mais vous n'en avez que l'apparence. Parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe, oh, vous êtes en train de faire un bon nettoyage, mais à l'intérieur, ce sont des mensonges, ce sont des rapines. Et Jésus leur dira, mais écoutez, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Parce que, à l'extérieur, un sépulcre qui peut être bien, à l'extérieur, il peut être blanchi, mais à l'intérieur, ce sont des ossements. Hein. C'est la corruption. Alors, c'est Jésus qui dit cela, hein, c'est pas moi. Hein. Et pour montrer que renoncer à soi-même, ce n'est pas seulement d'avoir l'extérieur d'une vie morale, une vie, comme on dirait aujourd'hui, clean, une vie religieuse par surcroît, parce que ça c'est l'emballage, mais c'est quelque chose de beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Parce qu'il y a quand même une différence à faire entre la vie religieuse et la vie spirituelle. La vie religieuse, c'est la vie de l'âme, où c'est l'homme qui essaie de se redonner un peu de peinture sur la façade pour dire et paraître bien, hein, se donner une bonne réputation. Mais la vie spirituelle, c'est à l'intérieur, c'est là où il y a le changement. Parce que le principal, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Et il y en a tellement qui ont joué la comédie avec ça. C'est pour ça que les gens, à l'extérieur, se disent « Ne me parlez pas de Dieu, ne me parlez pas de l'Église, ne me parlez pas de ceci et cela, parce que, avec tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on a vu, nous, on n'y croit plus. Hein. » À cause, finalement, d'un contre-témoignage. Mais par contre, quand il y a une véritable et authentique vie spirituelle, alors là, on voit des différences. Un homme, comme le fils prodigue, qui a trempé dans toutes sortes de choses, même des choses scandaleuses et honteuses, mais qui, à un moment donné, se reprend et revient et demande pardon à Dieu en disant, « Seigneur, moi, je ne veux plus vivre comme ça, parce que je sais que je vais à la mort. Je suis perdu pour l'éternité. » Et qui répare les choses, alors à ce moment-là, ça change tout. C'est une véritable vie spirituelle qui commence et il ne parle plus comme avant, il ne pense plus comme avant, il n'a plus la même mentalité qu'avant. Il devient finalement, après avoir été un mécréant, il devient un saint. C'est ça la transformation et c'est Dieu qui transforme. C'est pas lui qui essaie de se transformer par lui-même, mais il laisse le Saint-Esprit, il laisse la parole de Dieu qu'il a entendue le transformer. Ça, c'est un miracle. Et c'est ce que Jésus, et je le répète encore une fois, c'est ce qu'il appelle la nouvelle naissance. L'important, ce n'est pas une vie de façade, c'est une vie intérieure. Une vie profonde, la vie spirituelle. Et quand il est question de spirituel, il est question de l'esprit. Ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Parce que cette dernière, cette vie spirituelle, est fondée sur une résurrection, une renaissance, mais qui passe par une repentance. Il y en a des re, hein. Ouais. Renaissance, renouveau, repentance, et mourir à soi-même. C'est ce qu'a fait finalement le premier, le fils prodigue. C'est ce qu'a refusé le second, le frère aîné, parce que quand il y a blessure ou brisure, Le premier a été brisé par son propre péché. Le péché lui a fait du mal, il n'en voulait plus. Il en était dégoûté, ça lui a fait du mal, il s'est dit, moi j'y touche plus. Mais il a fallu qu'il soit brisé, il a fallu qu'il soit blessé. Et vous savez, cette brisure et cette blessure-là, elle nous sauve de tout simplement de l'orgueil de notre propre justice. Le second, lui, n'a pas voulu renoncer à lui-même. Je suis bien dans la maison de mon père, donc je ne pardonne pas, je ne rentre pas. Et ce qui est terrible, c'est que, voyez-vous la différence, hein, c'est que l'un est rentré, il a trouvé la bénédiction de Dieu, l'autre n'a pas voulu rentrer, ben, il est resté dehors, tout simplement. Il est resté sans fruit. Il est resté tout simplement dans la mort. Parce que si, nous dit le texte de Jésus, si le grain de blé ne meurt, eh bien, il ne peut pas porter de fruit. Mais par contre, si véritablement il reste dans l'état, eh bien, il va rester seul. Et nous voyons qu'alors que la fête battait son plein dans la maison du Père, qui est l'image du royaume de Dieu, lui, il est resté dehors, tout simplement. Il est resté dans la mort. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce. Et j'espère qu'à travers cette simple pensée, cette simple présentation, eh bien, véritablement, nous puissions nous approcher du Seigneur en disant, mais Seigneur, eh bien, ce que j'ai besoin, c'est que tu changes ma vie, que tu me changes dans mon cœur, que tu me changes en tout et pour tout, parce que moi, vraiment, je veux porter des fruits. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton infinie bonté, Seigneur. Merci parce que tu as souvent parlé avec des comparaisons, avec des grands contrastes, comme tu nous l'as montré dans ce principe de la mort ou de la vie. Celui qui meurt retrouve la vie. Celui qui veut conserver sa vie, eh bien, il la perdra. Oui, Seigneur, merci pour ces deux frères. L'un qui part et qui revient, mais vraiment avec une vie changée. L'autre qui, véritablement, Père éternel, ne veut pas bouger de son état, qui sort dehors et qui y reste. Alors nous voulons, Seigneur, te rendre grâce et te remercier parce que c'est bien l'histoire des hommes de ton temps, Jésus. Et c'est l'histoire aussi des hommes de notre temps parce que finalement, si les sociétés ont changé, si les modes ont changé, il y a une chose qui ne change pas. C'est finalement eh bien, le cœur de l'homme qui reste égal à lui-même. Et nous voulons, Seigneur, te remercier parce que quand tu nous parles, Seigneur, que tu étais venu, non pas pour les bien portants, mais pour les malades qui désirent la guérison, qui désirent le traitement de Dieu, qui désirent le salut de Dieu, alors à ce moment-là, ils deviennent des bien portants. Mais Seigneur, celui qui se dit « je suis bien portant » et qui n'a pas besoin de la grâce de Dieu, qui n'a pas besoin de l'aide de Dieu, eh bien, il va rester malade sans qu'il le sache. Et nous voulons, Seigneur, te demander, Père éternel, que tu fasses ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos esprits, dans nos consciences, dans nos pensées, et qu'ainsi, Seigneur, eh bien, cette œuvre, qui est une œuvre spirituelle, qui est une œuvre surnaturelle, une œuvre miraculeuse, eh bien, tu l'opères, et cela pour la gloire de ton nom et pour notre salut. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.